Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre.
Nouvelle rencontre.
Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
Cube Radio.
Une radio pas comme les autres.
Julia, Rémi, bonjour à vous deux.
Bonjour.
Comme je sais que vous êtes deux férus de musique avec moi, puis on a déjà parlé de l'attitude des artistes. Là, on avait parlé dernière fois ensemble de celle de Roger Waters, hein, qui est quand même un artiste d'un certain âge, qui a un vécu, qui parlait des artistes d'aujourd'hui avec des termes assez péjoratifs. Merci, mais là, les tables ont été retournées, pour faire un bel anglicisme. C'est le chanteur Drake, hein, rappeur Drake, qui a dépassé les Beatles au palmarès Billboard. Et au lieu, si on veut, de féliciter les Beatles pour ce record-là, hein, ils l'ont depuis 55 ans, ben il a mentionné avoir battu assez de records ce mois-ci pour ses abonnés, puis qu'il les a invités à aller consulter un site de crypto-monnaie, blablabla. Est-ce que c'est symptomatique d'une musique, ça, aujourd'hui, ou plutôt des artistes tout court, d'être arrogants comme ça, Julia?
C'est dur, hein, de généraliser les artistes parce que déjà d'emblée, les artistes sont souvent des gens soit un peu marginaux, un peu excentriques. Donc, c'est toujours difficile de dire les artistes aujourd'hui. Mais il n'en demeure pas moins que c'est vrai qu'il y a quelques tendances, par exemple la commercialisation de la musique, qui font que, bon, les artistes ont peut-être, disons, s'éloignent un peu de l'art lui-même, s'éloignent un peu de l'essence de leur métier et deviennent un peu des produits de marchandise où dès qu'ils ont une chance de le faire, ils vont promouvoir un produit. C'est peut-être aussi une influence de la culture du rap qui a normalisé l'arrogance, le fait de se vanter, d'être irrévérencieux. Peut-être que ça a fait son temps. Je pense que les fans sont un peu dans le coup aussi, hein. Le public embarque, aime ce genre d'arrogance, ce va-et-vient entre l'artiste et eux. Ils sont pas sur le même pied d'égalité. Mais en même temps, il y a de plus en plus de proximité avec les artistes. C'est un peu compliqué tout ça, mais d'après moi, il y a vraiment cette idée de commercialisation qui trône au-dessus de tout ça, puis qui permet d'expliquer un peu le phénomène Drake.
Est-ce qu'on veut une rivalité comme ça entre les artistes, Rémi, pour toi, ou on préférait une belle camaraderie, rendre des hommages, si on veut, aux artistes du passé?
Ben, c'est juste que je pense que les artistes doivent jamais oublier, même s'ils inventent un style, même s'ils révolutionnent la musique, il faut jamais qu'ils oublient qu'ils sont des héritiers. Ils ont comme une dette envers les anciens. Puis moi, j'ai pas l'impression que dans la réaction de Drake, on a remarqué ça. Là. Ça a plutôt l'air d'une sorte d'ingratitude, alors que les Beatles ont inventé une série de pratiques qui sont adoptées par Drake aujourd'hui. Puis là, j'en nomme juste quelques-unes. La carrière studio, les spectacles dans les stades sportifs, l'autoproduction, les albums concept, les vidéoclips. Donc Drake aurait pu faire preuve d'un peu plus de classe, là, je pense.
C'est sûr qu'il aurait pu faire preuve de plus de classe. En même temps, comme l'a dit Julia, c'est peut-être propre aux artistes après ça d'être arrogant, de sortir du moule, de sortir des cases, puis mais ça reste quand même dommage d'un côté. Là, moi j'aime pas voir les gens s'en déchirer sur des sujets comme ça. Je trouvais ça important qu'on le mentionne. Gros sujet de l'heure, hein, qui date depuis hier, là. Les voyants sont au rouge. Selon Statistique Canada, il y a un déclin du français. On en a parlé un peu hier ensemble. Mais là, ça continue de décliner. On craint pour la survie du français. Est-ce que c'est aux mains des jeunes que ça devrait se sauver, ce français-là, Rémi, pour toi?
Ben, en partie. Là, juste que ce soit clair, parce que j'ai lu ce matin dans la Gazette un article qui remettait en question les résultats de Statistique Canada. Écoutez, là, Statistique Canada fait pas dans l'amateurisme généralement au plan statistique. Là, c'est assez sérieux ce qu'on a appris hier. Ce qu'on apprend, dans le fond, je rappelle quand même que l'indicateur le plus important en démo linguistique, c'est le français parlé à la maison. Okay? C'est le français parlé à la maison qui définit la capacité d'un État à vivre dans sa langue. Et les Iraniens veulent vivre dans leur langue, les Mexicains veulent vivre dans leur langue. Ben, c'est la même chose pour les Québécois. C'est pas trop demandé. Et le français parlé à la maison, ben, où en est-il en vertu du recensement d'ailleurs? Ben, il a baissé de 1,5%. Il est passé de 79 à 77,5. 1,5%, là, pour les gens qui sont pas familiers avec la démo linguistique, c'est énorme. C'est énorme. Le poids des francophones au Canada a baissé de 6% en 50 ans. Ça vous donne une idée. Donc, 1,5% au Québec en 5 ans, c'est énorme. Et c'est un signal d'alarme qu'on pouvait identifier déjà dans le livre de Frédéric Lacroix il y a 2 ans, « Pourquoi la loi 101 est un échec ». Quiconque a lu ce livre-là il y a 2 ans se rappelle que l'auteur, qui est un physicien et un démographe également, adoptait une posture quand même assez tragique. Puis j'en parle parce que hier, je pense que ça a été l'une des réactions les plus frappantes. Ce chercheur-là, Frédéric Lacroix, a écrit sur Twitter que ses prévisions étaient exactes, mais qu'il s'était trompé parce qu'en fait, le tragique est devancé. Lui, il s'attendait pas à ce qu'on baisse à 77,5% aussitôt. Donc, c'est moi, je suis dépassé par les événements. J'ai entendu dire que tu reçois Simon-Jolin Barrette tantôt. J'espère que tu as des bonnes questions pour lui. Puis, je noterai au passage que la situation est tellement tragique que le Parti libéral du Canada se dit préoccupé. La CAQ, évidemment, se dit préoccupé. Le Parti québécois aussi. Puis, est-ce que vous avez vu la réaction de Québec solidaire?
Non, j'ai pas eu l'occasion de l'avoir.
Il n'y a pas de réaction.
Ah, peut-être pour ça, oui. Peut-être pour ça, je ne l'ai pas vu, s'il n'y en a pas de réaction. Est-ce que ça devrait concerner Québec solidaire puis les autres partis, le Parti conservateur, qui devrait peut-être réagir aussi? Julien, toi, comment tu vois ça, ce déclin?
Ça doit concerner tout le monde. Moi, ce que ça me dit, c'est que visiblement, l'approche qui a été adoptée par le passé puis qui est encore adoptée aujourd'hui pour mener le combat de la protection de la langue, c'est pas la bonne approche. En tout cas, les chiffres nous disent que ça fonctionne pas, que ça va mal. Moi, ce que je critique un peu de cette approche-là, c'est qu'on semble incapable de sortir de la logique de protection de la langue héritée des premiers mouvements souverainistes et voulant qu'il y ait des alliés et des ennemis, des gens qui parlent le français et des gens qui le menacent. Pour moi, cette notion de menace est profondément contre-productive et parle peut-être pas autant aux nouvelles générations. Parce qu'on passe notre temps finalement à critiquer tous ceux qui ne parlent pas français et on oublie de féliciter ceux qui l'apprennent, d'encourager les gens finalement à aimer la langue comme nous on l'aime. Donc, à mon sens, le mouvement est plus souvent qu'autrement à la négative. Et bon, peut-être que certains pourraient dire que la gravité du problème oblige une posture stricte, radicale, il faut pas faire de concessions. Mais la radicalité, ça convainc très mal. Puis si le français est pas propulsé par un amour avant tout, ben d'après moi, ce qu'on observe en ce moment, évidemment, c'est ce qui devait arriver en fait. Parce qu'on doit, c'est peut-être un peu romantique comme approche à la protection de la langue, mais on doit transmettre l'amour avant de transmettre l'exclusion. Pourquoi on ne dit pas super, accueillons des immigrants, on en a besoin pour la main d'œuvre, c'est notre devoir en tant que nation riche. Et aidons-les à aimer le français comme nous on l'aime. À la place, on dit « le français est en péril, fermons les frontières ». Alors, pendant que le Québec se modernise, se diversifie, on est encore dans une logique de l'argent et le vote ethnique. Et ça parle pas à, ça parle peut-être à ceux qui ont voté au dernier référendum, mais ça parle pas aux jeunes qui sont nés dans un tout autre contexte.
Je te relance, Julia, puis je vais entendre Rémi là-dessus après. À ce moment-là, c'est Statistique Canada, le recul du français est dans l'ensemble, il est marqué dans l'ensemble du Canada, beaucoup ici au Québec. Là. Puis tu faisais bien de le dire, Rémi, c'est devancé. Là. Les dernières statistiques, c'est 2016. Donc, ça a décliné de plusieurs points de pourcentage en quelques années seulement. Donc oui, c'est très préoccupant. Là. En 5 ans, parce que ça date de 2021, ce recensement-là. À ce moment-là, Julia, est-ce que c'est pas contre-productif ou complètement illogique de vouloir lutter contre la loi 96 dans le reste du Canada, par exemple, ou dans les regroupements anglophones ici? Je dis pas que c'est la panacée pour protéger le français, mais ça me semble des mesures assez costaudes. Est-ce que, pour toi, est-ce que c'est logique après ça de s'attaquer au projet de loi 96 un peu partout?
Mais pour moi, la loi 96 rentre exactement dans cette logique de trouver des ennemis plutôt que de trouver des alliés. Dans la loi 96, il y a un autre. Il y a les immigrants qui sont des autres. Il y a plein de choses dans la loi 96, mais ce qui est critiqué, c'est surtout cette partie qui dit qu'en 6 mois, il faut apprendre le français, sinon on n'aura pas le droit aux services en d'autres langues.
Ouais, si on comprend.
Cette idée d'exclusion, et en fait, c'est une idée qui est fatiguée, qui parle plus aux jeunes. Donc, je pense que c'est ça qui est critiqué de la loi 96, c'est qu'on reste dans la même logique alors que le Québec évolue. Et stratégiquement, ça me semble pas être la bonne approche. Moi, je pense que dans mon cœur et dans mon âme, je pense que c'est pas la bonne chose à faire. Mais aussi stratégiquement, tout simplement, je pense pas que c'est par là qu'on doit passer si on veut sauver notre langue.
Mais en même temps, je veux passer la parole à Rémi après. Mais en même temps, je comprends là, c'est peut-être pas la bonne approche, mais c'est une approche. Et puis il y en a pas eu beaucoup dans les dernières années de modernisation de la loi 101. C'est pas mieux ça que rien du tout.
Mais je pense que c'est peut-être.
Ouais, puis on peut laisser Rémi peut-être répondre là-dessus, puis je te relancerai. Oui, Julia, vas-y, Rémi.
Ben, je pense que en effet, c'est une approche au moins, tu sais. Puis moi, je trouve qu'elle va pas assez loin. Puis on parle souvent du fait que les immigrants auront 6 mois pour apprendre le français. Premièrement, ça fonctionne partout pareil. Je veux dire, jusqu'à quel point on est complaisant pour trouver ça exagéré. Vous allez en France, les services sont en français dès le jour 1. Vous allez en Chine, sont en mandarin dès le jour 1. Donc au Québec, on est un État, on vit en français, ça fonctionne comme ça. Si les gens apprennent pas le français en 6 mois, ils peuvent se faire accompagner. Ils peuvent l'apprendre un peu et les fonctionnaires vont être indulgents. Mais les gens accueillants, au Québec, on va pas refuser de servir quelqu'un qui a fait un effort d'apprendre la langue. Puis j'aimerais revenir sur ce que Julia a dit à propos de l'amour de la langue française. Moi, je suis d'accord avec elle. Honnêtement, si ça suffisait, partager l'amour d'apprendre la langue, j'aimerais ça qu'on tourne le dos à ces mesures coercitives. Mais on vit en Amérique du Nord, il y a 400 millions d'anglophones sur ce continent. Il faut être assez naïf pour penser que de faire la promotion de la langue française, ça va suffire à la défendre. Il y a une pression linguistique qui est énorme. Et quand on parle des immigrants, il faut pas tomber effectivement l'espèce de dynamique ennemi-allié, sauf que les chiffres sont là. 46% des immigrants allophones font une substitution vers l'anglais, alors que la communauté anglophone représente moins de 10% du Québec. Donc c'est énorme là, la proportion d'anglophones en fait chez les immigrants, des allophones qui basculent du côté anglophone. Donc c'est pas une dynamique ennemi-allié, mais il faut comprendre que l'immigration est au cœur de ce processus-là. Il faut réduire les seuils si on veut franciser le Québec, tout simplement.
Julien?
Ben, en ce moment, l'approche qu'on a prise, c'est une approche de coercition. C'est ça qui a été là, des lois, de dire on ne veut pas de telle... C'est ça qu'on a fait, là. À date, c'est ça qu'on a fait. Qu'est-ce que les chiffres nous disent? Ça ne fonctionne pas. C'est vrai qu'on n'est pas... On va pas mettre des lunettes roses de se dire, ben, si on donne du Anne Hébert à tout le monde, ben, tout le monde va être content, puis tout le monde va parler français. Si seulement c'était si simple qu'on se mettait du Gilles Vigneault dans les oreilles, puis tout le monde, tu sais, loi 101, loi 96, tout le monde est d'accord. C'est pas comme ça. C'est vrai qu'il faut qu'il y ait des lois, c'est vrai qu'il faut la protéger, mais c'est la logique dans laquelle on applique ces lois et on les encourage et on les promeut finalement. Il faut dire, aimons le français, venez dans la danse, tu sais, comme dansons ensemble, là, c'est un peu hippie mon affaire, mais visiblement de forcer les gens à adopter une langue, ça ne fonctionne pas. Moi, la raison pour laquelle je prends cette autre posture, c'est qu'on regarde les chiffres aujourd'hui et qu'ils nous prouvent que ça n'a pas fonctionné. Donc, à ce moment-ci, qu'est-ce qu'on fait? Parce que les anglophones sont aussi en opposition aux francophones, parce que les francophones sont en opposition à eux. T'sais, ça va dans un sens, ça va dans l'autre. Les immigrants se disent « ils ne veulent pas de nous », le racisme est exacerbé. Cette logique de confrontation a jamais aidé dans l'histoire, alors elle n'aidera pas ici non plus. Il y en a pas de solution parfaite. Je sais pas c'est quoi la solution et je suis très contente qu'on en parle parce que visiblement il faut ouvrir les portes à autre chose parce que ce qui existe en ce moment ne fonctionne pas.
Écoutez, vous amenez de l'eau à mon moulin, hein, parce que je reçois, comme je le disais, après la pause, Simon-Jean Barrette, ministre de la langue française, responsable de la langue française au Québec, mais aussi le ministre de la Justice, parce que je vais avoir d'autres questions de cet acabit-là à lui poser. Rémi Julia, je sens qu'on va poursuivre ce débat-là encore longtemps. Merci d'avoir été là.
Merci.